marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Février 37, la République espagnole réussit à mettre en échec Franco, qui aurait voulu entrer dans la capitale à la tête de ses colonnes de la mort. Le théâtre a pris sa part dans cette résistance.
Le théâtre doit exposer vos aspirations, refléter vos luttes. Aidez-nous par votre présence.
Le théâtre républicain pendant la guerre d'Espagne.
Madrid résiste. Il faut essayer de l'encercler. Cinq brigades de l'armée d'Afrique et l'artillerie de la Légion Condor attaquent dans la vallée du Jarama. Objectif, couper la route Madrid-Valence.
Février 1937, Madrid est assiégé par les franquistes depuis 4 mois. Les quartiers les plus exposés sont creusés de tranchées, hérissés de barricades. La cité universitaire est défendue par un Hongrois, Kléber. Les brigades internationales sont venues en effet défendre la ville que le gouvernement républicain a dû évacuer, mais qui sera, dit le poète Raphaël Alberti, la capitale de la gloire. Qu'à Madrid, les hommes soient des châteaux, avec leurs fronts tels des créneaux et leurs bras tels de hauts remparts, portes que nul ne forcera. Depuis qu'elles ont déclenché la guerre civile, les troupes franquistes ont aboli les normes sociales fondamentales. Leur colonne de la mort annonce leur programme, écraser cette populace d'un coup de marteau. En réplique, l'ordre républicain dans la ville s'exerce sans pitié. Les théâtres n'ont pas fermé, mais ils sont passés sous le contrôle de comités ouvriers. Leur fonction est double, renforcement du moral et propagande révolutionnaire. Une fois desserré l'étau sur Madrid en février-mars 1937, le théâtre continuera de jouer un rôle important. Il essaimera sur le front, dans les villages, au cul des camions, partout où il pourra. Il adoptera des formes courtes, mordantes, qui rappelleront les trains d'agitprop qui circulaient à une autre époque de guerre civile dans la Russie soviétique. Un autre poète, Miguel Hernandez, crainte que l'Espagne s'écroule sous le poids du sang qui suinte entre ses trames jusqu'à mouiller le pain qui se mange. Urgence du théâtre, théâtre d'urgence.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec, aidez-moi, Rocío González.
Naranjo.
Voilà, et vous êtes l'auteur d'une thèse sur le théâtre en Espagne pendant, avant la guerre civile. Et puis nous ferons appel à un autre trésor, ce sera une émission à double foyer si vous le permettez, oui. Rocío. Une grande réalisation radio de José Pivin en 1970, où il avait reconstitué de nombreuses pièces courtes du théâtre de cette époque, avec de grands comédiens, dont Sylvia Monfort. C'est l'habitude dans l'histoire de la littérature et du théâtre espagnol, Rocío González Naranjo, de spécifier des générations. Alors la génération de 1927, Alberti, dont j'ai déjà cité le nom. Vous, vous aimez aussi, tout en gardant ce concept de génération, parler de certains groupes et du groupe des femmes.
Oui, mais d'abord, j'aimerais bien dire que moi, je ne suis pas très pour les générations. C'est-à-dire, moi, génération 27, génération de 98, génération 14. Moi, j'aime pas trop qu'on renferme les auteurs dans une génération quelconque. Il est vrai, moi, je préfère parler des mouvements. Des mouvements, des groupes. Donc, c'est vrai, pour moi, je travaille maintenant, je suis très engagée pour montrer qu'il y a un mouvement des dramaturges femmes républicaines. Donc, sont autour, justement, de cette dite génération de 27. Mais aussi, il y en a des femmes qui, on pourrait dire aussi, qui appartiennent à la génération de 98. Il y a Carmen Baroja, qui ont fondé El Mirlo Blanco. Il y a aussi, par exemple, Alma Angelico, qui est aussi, on pourrait dire, d'après l'âge, d'une génération de 98. Mais il y a aussi les nouvelles, comme par exemple, il y a María Teresa León.
On va entendre plus d'une fois dans cette émission.
Et sont presque toutes dans le Lyceum Club. Club, je ne sais pas comment dire.
Oui, c'est un lieu de rencontre.
Voilà, un lieu de rencontre, mais aussi un lieu très important des créations.
Il faut dire aussi que pendant la Seconde République, qui commence en 1931, son parcours va être interrompu par l'offensive franquiste. Les femmes ont émergé à bien des égards. droit de vote, mais pas seulement.
Ah non, pas seulement. C'est surtout, il y a eu le droit au divorce. Il a permis aussi, comme vous dites, les droits au vote. Mais il y a aussi des femmes qui sont représentants des Espagnols, hein, comme Campoamor, par exemple. Il y en a des femmes qui sont avocates, comme Victoria Kent, qui est aussi ministre. Donc, vraiment, c'est la République, c'est vraiment une époque très importante pour l'avancée de droits des femmes.
Il était une fois...
Quel prodige, quelle merveille!
Un pays de chair et de terre, un grand cœur plein de liberté, un vent au souffle illimité, un soleil qui sur les campagnes répandait par an trois moissons, et des mers dont les flots roulaient sous l'azur une écume fraîche.
Quelle merveille, quel prodige!
Des monts et de très longues chaînes de pins que le ciel couronnait, et des rivières qui chantaient dans une entière insouciance, et des gens qui passaient leur vie le dos tourné à la richesse, des gens aux mains jamais souillées, aux intentions claires et bonnes.
Quel prodige, quelle merveille!
Il était une fois...
Quand un jour, soudain...
Oh, effroi! Oh, sombre et funeste infamie! Oh, sort terrible, oh, cataclysme! Oh, l'ignoble ouragan de feu! Les charrues labourent le sang. Les bœufs à profonde foulée ne sont plus que mouvants tombeaux, où chantaient parfois les faucilles, ne sifflent aujourd'hui que la faux. Et les bêtes tombent, aveugles et inertes, comme des blés.
Quelle épouvante, quelle angoisse!
Alors, on écoutait le bombardement, on jouait Numancia et Cervantes, ou la tragédie optimiste de Wisniewski, et le bombardement sur Madrid, et ces gens ravis qui rêvaient, qui regardaient les théâtres qui étaient pour la première fois pour le peuple. C'était voir le peuple qui venait voir ce théâtre, qui n'était pas son théâtre, parce qu'avant c'était le théâtre des riches. En ce moment c'était le théâtre des pauvres, et tout le monde pouvait entrer. Ça coûtait presque rien. Alors on voyait le jeune Jean qui retournait du front avec sa mère. Il embrassait sa femme ou sa fiancée, il regardait, il savait pour la première fois qu'il avait Cervantes ou qu'il avait Góngora, ou qu'ils étaient dans un monde tout à fait différent.
Le texte qu'on entendait dans l'émission de José Pivin, Raphaël Alberti, la voix qu'on entend, celle de Maria Teresa León que vous citiez tout à l'heure, qui dirigeait pendant les bombardements le théâtre de la Zarzuela à Madrid, enregistré à la fin de sa vie, avant son retour en Espagne, dans les archives du XXe siècle de Jean-José Marchand. Une voix dont je ne suis pas sûr, Rocío González Naranjo, que vous l'ayez jamais entendue.
Je ne l'ai jamais entendue. Pour moi, c'est l'actrice plus importante du théâtre républicain pendant la guerre. Et aussi pour la culture. Donc c'est vrai que c'est émouvant d'écouter cette voix.
Ils sont mariés, Raphaël Alberti et elle, et ils forment d'ailleurs un couple d'une beauté furieuse.
Oui, tout à fait. Lui, il est les poètes avant-gardistes, on va dire, amis de Federico García Lorca, de Buñuel, de toute cette génération de 27. C'est un couple merveilleux.
Elle dirige un théâtre, la Zarzuela. Oui. Il y a une vingtaine de théâtres, je pense, à Madrid. Enfin, quand je dis qu'elle dirige, oui, c'est une femme de feu, alors elle l'anime. Mais pendant la période du siège, où une discipline sérieuse règne dans les rangs révolutionnaires, une discipline sans pitié, les théâtres sont collectivisés et ce sont des comités d'ouvriers qui, en fait, ont le pouvoir.
Exactement. En fin de compte, elle dirige le théâtre d'art et de propagande qui appartient à l'Alliance d'intellectuels antifascistes qui a été créée en 1936. Et donc, c'est vrai, il y a une organisation très serrée autour de l'administration du théâtre. D'un côté, c'est parce qu'il y a eu tellement de maladresses autour des pièces qui se sont représentées dans ces Madrid, qui ne sont pas des pièces de circonstances. Ce sont des pièces, des opérettes, des vaudevilles, des comédies qui font seulement divertir les spectateurs, bien sûr.
Vous alliez dire que c'est du théâtre bourgeois.
Oui.
C'est le mot qu'on utilisait.
C'est un théâtre commercial. Et donc, d'un autre côté, il y a aussi des créateurs qui s'improvisent pour faire ces sortes de pièces de théâtre d'urgence. Donc, on va ordonner ça, mais ils l'ont fait vraiment, ils ont censuré aussi pas mal de pièces. Et finalement, ils ont tenu compte seulement plutôt des droits des travailleurs que de répertoire.
Alors, il y a une jungle des spectacles au sommet qui centralise les recettes, qui ensuite les redistribue, donne les autorisations et censure. Et puis, dans chaque théâtre, ces comités ouvriers. Simplement, il y a deux grandes centrales ouvrières. Il y en a une socialiste qui s'appelle l'UGT, et puis il y en a une qui est anarchiste et qui s'appelle la CNT.
Qui es-tu ?
Qui es-tu toi-même pour me le demander ?
Je suis autant qu'une autre.
C'est bien mon avis.
Je ne suis que miroir de moi-même.
Tu as une voix de femme.
Je suis mère.
Moi aussi.
Je suis la seule et unique mère. Je ne peux pas permettre qu'il en existe une autre.
Je pense de même.
Alors tu es de trop sur mon chemin.
Il n'y a qu'un seul chemin, celui que je monte.
Ni d'autre route que la mienne.
Tes bravades ne m'intimideront pas.
Mais avant de protester, dis-moi qui tu es.
Devine si tu es fine. Mon nom finit par un T.
Pas de blague. Tu me connais ?
Je ne blague pas. Je ne sais pas qui tu es.
Alors écoute. Mon nom aussi finit par un T.
Nous sommes peut-être de la même famille.
Et puis quoi encore ?
Mon troisième nom est Travail.
Le mien, Travailleur. Toi, tu t'appelles CNT ?
Toi, tu t'appelles UGT ?
Le moment est venu de faire connaissance.
Oh, très longtemps, j'ai dit du mal de toi. Je ne te connaissais pas.
Moi, c'est la même chose.
Puisque nous sommes pétris de la même argile, nous ne pouvons pas nous haïr.
Sylvia Monfort et Catherine Lecouet, tu parles. Les deux mouvements étaient antagonistes, fondamentalement, historiquement, circonstanciellement. Les anarchistes étaient accusés de stocker les armes, de violer les bonnes sœurs, d'assassiner les prêtres à tour de bras, de collectiviser les terres. Et les autres se jugeaient plus responsables.
Tout à fait. C'est-à-dire, ce sont deux syndicats qui s'opposent complètement. Ils vont se diviser et il va y avoir aussi des problèmes par rapport aux représentations. C'est-à-dire que, par exemple, les théâtres d'art et des propagandes dont on parlait avant, bien sûr, Maria Teresa León et Rafael Alberti, l'Alliance intellectuelle antifasciste, sont communistes. Donc, quand il y a eu un changement au ministère de l'instruction publique, d'un communiste à un anarchiste, ces théâtres d'art et de propagande a cessé d'exister. Mais après, c'est vrai qu'ils essayent de contribuer à ces répertoires, on va dire, en donnant à chaque salle de théâtre en Madrid ce qui lui appartient. Sauf que c'est vrai que finalement, ils vont échouer presque tous les actants de nos théâtres à faire ça.
Ben nous, on a une spécialité aussi anarchiste. Alors voici un chant de la CNT bien connu.
Le 8 mars 1937, 30 000 Italiens, appuyés par 20 000 légionnaires marocains et carlistes, précédés par 250 chars d'assaut, attaquent et enfoncent le front républicain à Guadalajara. Devant le danger, la division Lister se porte au front. Groupée derrière les chars russes du général Pavlov, ils contre-attaquent. Démoralisés par la violence de la contre-attaque, les chemises noires prennent la fuite. C'est la déroute. Ils laissent sur le terrain 30 canons, 150 mitrailleuses et 1300 camions. À 1 contre 5, les républicains remportent la victoire de Guadalajara. 12 bataillons italiens sont faits prisonniers avec leur état-major. À la nouvelle de la défaite de Guadalajara, Mussolini déclare « Tous les Italiens qui reviendront sans être vainqueurs seront fusillés ».
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Il y a 70 ans, l'étau sur Madrid était desserré pendant un moment. Nous parlons aujourd'hui du théâtre républicain pendant la guerre civile avec Rocío González Naranjo. L'étau desserré sur la capitale, ça ne veut pas dire qu'en matière de théâtre, la discipline ne continue pas à être très sérieuse, d'autant que il y a l'ombre portée de l'exemple des soviétiques là, qui s'exercent de plus en plus à mesure que les mois passent.
Exactement. Même si on a presque Madrid assiégé, on continue avec cette envie de propagande, d'encourager aussi le madrilène, mais aussi l'Espagne entière, hein, parce qu'il y a aussi des théâtres au front. Mais par exemple, il y a La tragédie optimiste.
Alors, qu'est-ce que c'est la tragédie optimiste? Alors, est érigée en modèle et qui vient d'Union soviétique. Il faut dire d'ailleurs que Alberti et Maria Teresa León, peu après la fin du siège, ils vont faire un voyage quasi officiel en URSS. Et la tragédie optimiste va prendre un rôle de plus en plus important dans le théâtre républicain.
Ils étaient impressionnés par ces théâtres agitprop, le théâtre russe. Et puis après, en 1937, ils sont aussi allés, ils sont retournés. Et c'est à partir de là que Maria Teresa León, toujours elle, hein, qui dirige et qui adapte cette pièce, justement. C'est de l'auteur russe Vsevolod Vishnevsky. Ben, c'est l'arrivée d'un commissaire du Parti communiste dans un équipage des marins anarchistes qui ont combattu lors de la Grande Guerre. Donc, le commissaire est une femme, mais elle arrive à s'imposer. Et donc, en plus, elle arrive à rejoindre, à que tout le monde rejoigne les mêmes idées. Donc, c'est ça l'esprit de d'union qui cherche Maria Teresa León avec cette tragédie optimiste.
Enfin, on rigole pas quand même dans la tragédie optimiste. Non, il y a des gens qui sont fusillés.
Eh bien, tous. Mais tant qu'il restera un marin, il restera l'armée entière. Donc c'est toujours un message d'espoir. Hein. C'est comme la nuance. C'est pareil quand Alberti a fait de Cervantes, qui a été adapté et modernisé, actualisé, on va dire, par Alberti. C'est pareil, on l'a traité de défaitiste, la pièce, puisque on connaît l'histoire, à Numance, finalement, les habitants préfèrent se tuer que de se rendre à l'envahisseur. Mais c'est pas la situation, c'est le message du personnage collectif, héroïque, du peuple, ce qu'ils vont montrer Alberti aussi avec Madrid.
Août 37, un conseil central du théâtre est créé, dirigé par le directeur général des Beaux-Arts, Maria Teresa León, vice-présidente, qui va décider de l'envoi en mission de guérilleros du théâtre.
Enfin, l'année 37, on a pensé faire quelque chose, mais laisser le théâtre. Nous avons pris tous les jeunes, tous les gens qui aimaient faire ça, le théâtre, dans le front. On a fait des groupes pour aller sur le front, guérillas del teatro. Sur le front, et pas seulement sur le front, mais dans les villages à côté du front, où il n'y avait que des femmes. Il y avait les classiques et une chose qu'on a appelée le théâtre d'urgencia. Alors c'était des petites pièces écrites par Raphaël et par d'autres amis, d'autres qui étaient là. Et alors, c'était des choses qui duraient, je ne sais pas, 10 minutes, 12 minutes, comme ça, c'est court, comme premièrement l'avait fait Cervantes, Los Enjeux de Cervantes. Alors, on jouait aussi Los Enjeux de Cervantes, mais on jouait les choses du moment, le moment actuel.
Je suis la mort. Les fascistes m'appellent. Je suis avec eux. Ils m'ont amené sur la terre de l'Espagne. Je n'aimais que les ruines, le pourri. À présent, je me gave de femmes et d'enfants. D'hommes pareils à des taureaux, à des prairies, à des aurores. Je suis la mort. L'apothéose de la mort. Je suis la reine des fascistes. La généralissime. Tous les généraux factieux sont mes amants. Mes os qui s'entrechoquent sont couverts d'une ferraille de clinquants. Mais au fond, je ne suis que la mort, la haine, la destruction. Je vais avec les généraux qui vendent leur patrie, avec les évêques qui prient la mort dans l'ombre du confessionnal, avec les gros propriétaires qui veulent qu'à leur terre servent d'engrais les cadavres des ouvriers et des paysans. Je vais avec les banquiers qui ont des montagnes de billets pour me payer, pour payer mon œuvre. Et plus je cause de mort, plus j'ai de millions. Je ne peux rester avec vous, vous qui êtes la vie. Je vais avec les miens, avec ceux qui m'appellent sans cesse.
Sylvia Montfort, c'est une pièce du théâtre d'urgence, sans doute anonyme. On voit d'ailleurs, parmi les personnages très importants du théâtre d'urgence, très souvent représenter les franquistes, ou leurs alliés allemands, italiens, ou les évêques, ou les prêtres. Alors, le plus caricaturé, mais il méritait de l'être, parce qu'il était assez monstrueux, il était toujours représenté en alcoolique, c'est Caipo Deliano.
Bien sûr, c'était un monstre. Je le dis clairement, c'était un monstre qui a tué des réfugiés qui essayaient de fuir par les routes des Malaga, par exemple. Il a tué des femmes et des enfants sans aucun scrupule. Donc, vraiment.
C'était même un apôtre du viol.
Oui, aussi. Et donc, du coup, c'est vrai, par exemple, Radio Sevilla, une petite pièce d'Alberti. Là, il caricaturise ses personnages, mais c'est pas du manichéisme, c'est vraiment quelqu'un qui est, comme vous le dites, c'est horrible.
Mais il avait des formules théâtrales, hein, tuer comme un chien, tout pédé ou pervers, qui critique notre mouvement national. Je recommande la lecture de Paul Preston, en français chez Belin, La guerre d'Espagne comme guerre d'extermination. Alors, il y a les gens de l'inhumanité, du côté adverse. Mmh. Et alors, les républicains sont caractérisés par l'humanité.
Alors oui, c'est un peu, comme je disais, un peu manichéen, mais il y a un chercheur espagnol, Gregorio Torres Nebrera, qui parle de trois types de thématiques qu'il peut y avoir dans ce théâtre. Donc d'un côté, il y a l'attaque contre les républicains qui ne veulent pas lutter pour la République. D'un autre côté, il y a la vision grotesque de l'ennemi. Donc, c'est le cas, par exemple, avec Hermann Bleiberg, Sombras de Héroe, où là, on voit vraiment les Allemands, les Italiens rire aux éclats des vins, les morts des Guernica, par exemple. Donc, c'est une vision très grotesque. Et puis, c'est l'hommage aux héros républicains, soit espagnols, soit étrangers, comme les brigades, hein, dans ce qu'on a écouté avant, la cantate des héros.
Ce que je vais vous faire entendre, là, un extrait du Réfugié de Miguel Hernández, grand poète espagnol, lui aussi, ressorti du premier, mais aussi du troisième thème. C'est un homme qui rentre du front, il va en Andalousie, qui est encore républicaine, mais pas suffisamment républicaine. Il y rencontre un réfugié, mais il va pousser le réfugié à devenir peu à peu un héros.
Assieds-toi, nous avons le temps. Tiens, prends une cigarette.
Tu viens du front ?
Oui, hier soir. J'étais sale comme un peigne. Il y avait longtemps que je n'avais pas changé de chemise.
T'as dû en entendre siffler, les balles.
Pas mal, oui. De plus de 1000, j'ai senti le vent dans mes cheveux. Plus de 2000 se sont enfoncés dans la terre près de moi. Une seule m'a laissé une cicatrice à la jambe gauche. Et j'en suis fier.
Et sur quel front es-tu ?
Sur le front de Madrid. On tient bon pour défendre la ville. Et ici, en Andalousie. Comment ça marche ?
Ça ne bouge pas beaucoup. Le soleil tape fort. Et le fusil s'endort lui aussi, à côté du soldat. L'ennemi n'attaque pas non plus.
Là-bas, quand il n'attaque pas, c'est nous qui attaquons. On ne peut pas faire la guerre avec des gens qui dorment.
Le réfugié ramasse des olives, il gagne très très peu d'argent, mais il achète des oranges qu'il va porter tous les dimanches à sa fille, qui est devenue folle. Il y en a qui dorment dans le lit de ma fille, dans notre maison et dans notre village qui a été occupé par les franquistes. Les femmes sont souvent des victimes et les hommes,
Je suis désolé de vous parler de la masculinité.
Oui.
Rocío González Naranjo, des héros.
Oui, exactement, c'est vrai. Les femmes sont toujours représentées comme des victimes. D'ailleurs, c'est pareil pour les affiches républicaines hein, aussi. Hein. Donc on voit vraiment un côté des victimisations de ces femmes. C'est le cas d'Isabelle, dont on parlait avant. C'est le personnage des Sombras de Héroes hein, de Germán Bleiberg. Là, elle cherche sa mère entre les morts de Guernica et finalement, elle est violée et tuée par les morts qui sont avec les Allemands et les Italiens. Donc, c'est toujours une vision victimisante. Oui.
Mais ce sont des textes d'une très grande efficacité. Le dernier qu'on va entendre est d'un anonyme.
Dis, à quel parti es-tu inscrit, toi ?
Qui, moi ?
Oui.
À aucun. À aucun. Avant la guerre, j'étais seulement syndiqué.
Ah.
Pour dire la vérité, la politique ne m'intéressait pas beaucoup.
Mais alors, pourquoi t'es-tu évadé ?
Pourquoi je me suis évadé ? Tu crois donc qu'un homme de cœur peut rester là-bas ? Dis donc, camarade, qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais vu traîner dans la rue le cadavre de ton frère ? Si tu l'avais vu mourir, vidé de son sang, percé de 20 blessures, qui criait 20 fois vengeance ? Qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais vu fusiller ton meilleur ami ? Si tu avais vu ouvrir le ventre de la femme d'un ouvrier, traquer les paysans comme des chiens et assassiner chaque soir des fils et des fils de prisonniers, qu'est-ce que tu aurais fait si devant tout ça tu n'avais pas pu protester, ni te venger, ni manger, ni même vivre comme doit vivre un homme ? Si tu t'étais vu poursuivre jour et nuit, giflé par les gardiens, constamment menacé de mort, tu les haïrais comme je les hais, de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon désespoir.
Les misérables.
Oui, oui, oui. Tout ça, je l'ai vu. Tout ça, je l'ai souffert. Et de tout ça, je veux me venger. Il faut que je lutte pour mon frère, pour mon ami, pour les millions d'hommes qui n'ont pas pu le faire. Je dois sauver tout ce qu'ils n'ont pas pu défendre. Je viens me battre jusqu'à la dernière goutte de mon sang.
Quand la République disparaîtra, ces textes ont été conservés ? Vous les avez entendus ou seulement découverts par vos recherches ?
Ah non, je les ai découverts par mes recherches. C'est comme avec les femmes, hein, surtout si ce sont des théâtres de femmes, pire encore, parce qu'il n'y a que des petites éditions. Donc c'est pareil pour ce type de théâtre. Ça a été surtout aussi le travail de Robert Marrast, hein, qui a fait une étude exemplaire sur les théâtres pendant la guerre. Et c'est à partir de là qu'on a commencé un peu à voir si on trouvait les pièces. Mais non. C'est...
Pour finir avec le couple Raphaël Alberti et Maria Teresa León, ils sont rentrés en 1977. Ils s'étaient exilés à Paris chez Pablo Neruda au moment de la retirada. Ensuite, ils étaient partis en Argentine. Le retour de l'homme a été triomphal.
Très triomphal. En fin de compte...
Raphaël Alberti a fait campagne électorale en vers,
oui.
Rien qu'avec des poèmes.
Oui, il était au Parti communiste.
Et il a été élu député à son retour.
Il a été élu député, il a été à côté de la Passionaria. Son retour, comme vous avez bien dit, il a été très triomphal, alors que Maria Teresa reste dans l'ombre depuis qu'ils sont partis de l'Espagne. Elle l'explique très bien dans ses mémoires, la mémoire de la mélancolie, hein, qu'elle l'appelle comme ça. D'ailleurs, un livre magnifique dont elle explique le périple qu'ils font en exil. Et là, elle-même reconnaît, elle est dans l'ombre. Et donc, c'est une injustice qu'elle ne soit pas reconnue après tout ce qu'elle a fait, parce qu'il y a Alberti qui était de la génération du 27. Voilà.
Merci de cet exercice de réparation. Rocío González Naranjo, c'était une émission consacrée au théâtre républicain. Allez, on va garder le mot, il est beau. Pendant la guerre civile d'Espagne, préparée par l'équipe de la Marche de l'Histoire, Ilinka Negulesco, Marion Philippe, Claire Milon, Franck Olivar, Frédéric Martin. À la réalisation, Valérie Aestaray, la technique, Juliette Delperrault.